France Inter.
France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux fermes dites agrivoltaïques. C'est la possibilité pour un agriculteur d'installer des panneaux solaires dans son champ et bénéficier du même coup d'un complément de revenus. Les syndicats agricoles sont globalement pour, à l'exception notable de la Confédération paysanne. Et voilà qu'une centaine de députés de tous bords aimeraient en limiter la portée pour éviter de faire des terres agricoles une bulle foncière avec de trop grands projets voltaïques qui pourraient d'ailleurs dénaturer nos campagnes. Sachant aussi qu'une terre confiée à un promoteur de voltaïque serait autant d'hectares qui pourraient à terme disparaître du foncier agricole. Eh bien, cette proposition de loi prévoit donc de limiter la puissance des panneaux et dont 40% seraient des ombrières qui serviraient donc d'abri. Bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir Éric, bonsoir à tous.
Eh bien, on devrait voir dès le début du mois prochain à l'Assemblée nationale quelle tournure prendra ce projet.
Et poser des limites, poser un cadre pour que l'agriculteur ne soit pas perdant dans l'ombre des énergéticiens et partager la valeur de l'Eldorado solaire, c'est l'objet de cette loi transpartisane qui arrive en commission la semaine prochaine à l'Assemblée.
À tout à l'heure Yaël. Et pour l'instant, c'est donc le grand flou, la feuille de route énergétique 2035 que le gouvernement a présenté il y a quelques jours ne dit rien de déterminant sur l'agrivoltaïque. C'est le thème d'une semaine en France. Soyez les bienvenus.
Éric Delvaux, le 18-20.
Et sur ce dossier, notre premier témoin est membre du collectif de défense de la Buffatière. La Buffatière, c'est en Corrèze et vous êtes opposé à l'agrivoltaïsme. Bonsoir Valérie Pégirolle.
Pigerol,
vous êtes donc opposé à un projet d'agrivoltaïsme au lieu dit la Buffatière sur les terrains agricoles près de Vian, en Corrèze, donc sur le plateau des Mille Vaches. Pourquoi y êtes-vous d'ailleurs opposé ?
En fait, c'est une réaction contre l'attribution de la SAFER de terres agricoles à donc à on va dire à une société, une SAS qui avait pour projet effectivement
rurale.
La foncière rurale, voilà, qui a donc effectivement un projet d'agrivoltaïsme sur des terres agricoles, mais là où s'était positionnée une jeune agricultrice qui avait obtenu son crédit, donc et qui était en bonne voie. Et nous, en fait, notre action, c'est parce qu'on a appris que finalement, elle n'allait pas obtenir, elle n'allait pas pouvoir acquérir donc ces terres, mais c'était attribué voilà, à la SAFER. Donc nous, ça a été une stupéfaction, sachant que sur le hameau de la Buffatière, il y a 6 maisons d'habitation, 2 à l'année, donc nous sommes 2 habitants à l'année, et entouré de parcelles agricoles. Donc deux exploitations qui étaient encore en activité. Décembre 2023.
Et vous craignez donc, Valérie Pigerol, d'être enclavée au milieu des panneaux ?
Alors, ça n'est pas seulement pour nous, parce que moi, j'ai acheté cette maison il y a 4 ans et elle a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc, notre inquiétude, c'est effectivement de voir des habitants qui ne peuvent pas s'installer, puisqu'il y a une habitation qui est en vente dans le hameau. Nous craignons, parce qu'un petit village de 90 habitants en tout, sur la commune de Vian. Donc nous, notre souhait, c'est que des gens viennent s'installer et que l'agriculture perdure. Là où il y avait des vaches, effectivement, mes voisines étaient très agréables auparavant. Moi, en termes de visibilité, c'est vrai que je n'ai pas envie, mais ce n'est pas la priorité. Moi, je pense que réellement, on ne doit pas retirer la fonction première de ces terres nourricières au détriment... Déjà, ce sont des projets qui sont très opaques. On ne connaît pas les parcelles, on ne connaît pas la superficie. Comme vous le disiez, il va y avoir une discussion des décisions qui vont être prises. Et là, en fait, notre inquiétude, c'est ça. Il n'y a pas eu de concertation. Les élus, que ce soit les communautés de communes, que ce soit la mairie, il y a eu des délibérations de prise en opposition à tout projet agrivoltaïque sur des terres agricoles. Donc, en fait, il y a vraiment un soutien de la population, des élus. On veut que les villages perdurent et on craint vraiment que ce soit une manière de finir de vider les campagnes.
Mais voilà. Cela dit, Valérie Pigerol, la foncière rurale est tenue d'installer un agriculteur sur ces terres. Pourquoi ne croyez-vous pas à la pérennité de cette exploitation agricole ?
Alors jusque-là, on n'a pas eu preuve d'intérêt et il y avait l'agricultrice. cette jeune femme qui voulait reprendre, elle n'avait pas besoin. Elle avait travaillé en plus en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a des zones humides sur ses parcelles. Et donc, un vrai projet de reprise. Donc, pourquoi ne pas lui donner la priorité à elle ? Elle était implantée en Haute-Vienne, donc c'était une voisine. Et elle cherchait vraiment à s'installer dans le village. Là, on n'a pas eu garantie que le repreneur ou le potentiel agriculteur s'installerait dans le village et viendrait participer à la dynamique locale. Et la deuxième exploitation était aussi en passe d'être prise, mais le porteur de projet, lui, quand il a appris qu'effectivement il y avait un projet d'agrivoltaïsme, évidemment a renoncé à l'achat de cette deuxième exploitation. Donc c'est vraiment en fait faire barrage à de l'exploitation agricole, et c'est ça qui nous dérange.
Mais malgré tout,
c'est très opaque.
C'est très opaque, dites-vous. Oui. Malgré tout, voyez-vous tout de même de bon côté à cet agrivoltaïsme qui permet à un agriculteur de se garantir finalement un revenu fixe, un revenu de complément parfois.
Alors là, je ne suis pas contre ça. Là, le problème n'était pas le cas. Enfin, vous voyez, c'était pas la situation qui concernait la buffe satière. Effectivement, il y a d'autres projets à l'échelle de la Corrèze et sur le parc naturel régional qui effectivement vont dans ce sens-là. Mais nous, ça n'était pas le cas. Voilà. Après, je peux entendre que les agriculteurs aient un besoin de complément, mais avant d'attaquer les parcelles agricoles, il y a des toitures qui sont vierges de panneaux. Je pense qu'il faudrait trouver un peu de bon sens et d'équilibre.
Eh bien, voilà. Merci.
Quand toutes les surfaces, voilà.
Merci beaucoup de ce témoignage. Merci. Valérie Pigerol, donc membre.
Merci à vous de nous donner la parole.
Avec plaisir, membre du collectif de défense de la buffatière en Corrèze, l'agrivoltaïque, avec donc ses craintes de bulles spéculatives et son impact donc sur le foncier agricole. Après la Corrèze, nous partons dans la Nièvre. Reportage à Saint-Pierre-le-Moutier, au sud de Nevers, dans cette campagne où les agriculteurs, comme les riverains, sont lassés et parfois effrayés par la surenchère de projets agrivoltaïques. C'est un reportage de Guy Vanctil.
Donc, je suis Aline Baumann, je suis paysanne et je produis des petits fruits, un peu d'arboriculture, tout en bio. Donc ici, on est à Saint-Pierre-le-Moutier, dans la Nièvre.
C'est la jolie campagne. On entend les oiseaux qui pépillent et puis là, il y a la poule qui prend le soleil.
C'est chouette.
C'est un temps à mettre des panneaux solaires.
Oui, c'est un temps à mettre des panneaux solaires, mais pas à n'importe quel prix.
Et alors, comment s'est passée la rencontre avec l'agrivoltaïsme alors ?
Eh bien, c'était un charmant matin en plein Covid, en fait, où un des propriétaires nous a dit clairement qu'il y avait un projet agrivoltaïque sur ces terres-là.
C'était où alors ?
Eh bien, c'était en fait en partant du haut du chemin, ça partait tout là-bas, on allait jusqu'au fond des prés, et ça allait en fait nous encercler complètement.
C'est ça, parce que là vous êtes en train de me faire un signe qui balaye tout l'horizon.
Qui balaye tout l'horizon, ça représentait à peu près 45 hectares. Tout le paysage qu'on a aujourd'hui devant nos yeux aurait été complètement dénaturé, ouais. Avec des grillages, des caméras tout autour. Enfin, c'est un site industriel qui s'accapare la nature en fait. Donc on a créé un collectif qui s'appelle les Prés de la Garde, tout simplement, c'est le nom du lieu dit. Hein, et voilà, la lutte a commencé à ce moment-là, pour moi en tout cas, et pour nos voisins.
Vous pensez qu'on peut aller voir les voisins en marchant ?
Ah oui, on va y aller.
Comme ça on voit un peu la campagne ?
Ouais, ouais. Voilà, les haies, les bocages, les forêts, c'est ce qu'on leur montrait en fait. Nous on est entouré de prairies, on est entouré de verre, on n'a pas envie d'avoir une marée noire à la place, et on n'a pas lâché quoi.
Ingrid ?
Ah ben voilà.
Bonjour.
Ben moi je suis Ingrid Michel, présidente de l'association des Prés de la Garde. On a monté donc cette association avec tous les riverains et puis on a lutté en fait pour que ce projet n'aboutisse pas.
C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché, on a réussi à faire fuir un des premiers promoteurs.
C'est-à-dire que vous avez tellement fait de bruit que le constructeur de champs de panneaux solaires agrivoltaïques a jeté l'éponge.
C'est ça, première victoire. Ensuite, quand on a vu un deuxième promoteur arriver, on s'est dit on ne nous foutra jamais la paix, en fait. Ça va être comme ça tout le temps.
En fait, de là, on s'est rendu compte que dans la Nièvre, il y avait des prospections, mais partout, chez tous les paysans. Ils étaient même harcelés au téléphone.
C'était un truc de dingue. Enfin, une déferlante de projets sur tout le territoire, dans tous les sens.
Les projets dans la Nièvre, c'est parce qu'en fait, la Nièvre, on a des grands pâturages. Donc, pour les panneaux, c'est l'idéal. Les terres sont moins chères aussi. Mmh. Et ça permet de pouvoir avoir des grandes surfaces. Donc, ça rapporte plus d'argent. On peut comprendre les paysans qui veulent en fait s'en sortir parce que les terres, Aline, rappelle-moi, c'était combien là à l'hectare ?
On était autour de 3000 euros l'hectare.
Ça, c'était la redevance que toucherait l'agriculteur.
Le propriétaire. Et l'exploitant, lui, percevrait 1000 euros par hectare et par an.
Parce que si j'ai des terres et que je les loue à un agriculteur, je les louerais à quoi ? 150 euros ?
Ouais, c'est à peu près ça, 150 euros l'hectare. Si vous êtes propriétaire exploitant, eh bien là, c'est bingo, donc c'est 4000 euros à l'hectare.
Donc là, c'est une culbute colossale.
Ah ben c'est multiplié par 20. Mais si c'est pour alimenter des milliers de Tesla et autres voitures électriques pour satisfaire les métropoles, on n'est pas d'accord.
Donc moi, je veux bien qu'on fasse de l'écologie avec les panneaux pour avoir de l'énergie, mais qu'on fasse pas ça au détriment de la nature, quoi. Là, vous voyez, là-bas, il y a des chevreuils.
Ah, je les vois, les chevreuils, là-bas. Ils sont en train de courir au pied des piliers.
Ah oui.
Ah, c'est beau, c'est gracieux.
Là, il y a des lièvres aussi en ce moment-là.
Il fait trop chaud alors.
Ouais.
Café ?
Ah, vous sortez votre ordinateur.
Oui. En fait, c'est une carte sur laquelle on peut répertorier tous les projets. Et donc là, nous, on a rempli tout le côté de la Nièvre.
Ah, c'est-à-dire que vous mettez à jour,
on met à jour
tous les projets agrivoltaïques ici, dans cette région-là.
C'est ça. Et du coup, ça nous permet d'avoir une veille et de vérifier où s'installent les projets.
Et là, on est où, là, sur la carte ?
Et là, donc, on est ici.
Et si je regarde autour, c'est noir de petits points, de petits drapeaux que vous avez mis, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une inflation incroyable de projets.
Tout à fait. Et on est au-delà de 70 projets, quoi. Vous voyez, si je zoome encore un peu, par exemple, sur Saint-Pierre. Hop. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 projets. Sur un périmètre de 10 km² autour de Saint-Pierre. Donc, en fait, là, par exemple, celui-là, on se retrouve à 30 hectares. Ici, on a 15 hectares. Ici, c'est 18 hectares. Ici, on a un projet de 7 hectares 9. Ici, c'est un projet de 45 hectares.
Des énergéticiens sur rue dans le coin.
C'est la ruée vers le solaire. Voilà. Donc, tous les projets se concentrent ici. Enfin, c'est ahurissant, quoi.
Et alors, du coup, il y a la manif qui aura lieu pendant la diffusion de ce reportage.
C'est ça. Et donc,
en ce moment même où les auditeurs nous entendent, vous êtes à Nevers.
Voilà. Donc, on organise devant la préfecture un rassemblement. On va demander un moratoire pour stopper tout projet actuellement sur les espaces agricoles, naturels, forestiers. On se pose, on réfléchit et on arrête d'aller n'importe où, tout saccager. Bon, il y aura plein de petites animations, ça va être plutôt sympathique. Et l'apéritif est offert.
Ah ben, si l'apéritif est offert, alors reportage de Guy Vanctil donc à Saint-Pierre-le-Moutier avec ses 13 projets dans la Nièvre. On parle ce soir des fermes agrivoltaïques et les craintes qu'elles suscitent. Avec vous cette fois-ci, bonsoir Olivier Dauger.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur, administrateur de la FNSEA, en charge des dossiers climat, énergie et carbone. Votre syndicat avait poussé d'ailleurs en 2023 pour obtenir la loi APER, loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, avec son chapitre agrivoltaïque. Et dès le début, vous avez défendu un développement raisonné de l'agrivoltaïque. Ça veut dire que dès le départ, la FNSEA avait identifié les effets pervers aussi de ce concept.
Oui, non, tout à fait. Et j'ai bien entendu les interventions d'avant et j'espère que ce que je vais dire va un peu rassurer, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a décidé de sortir du fossile avec les accords de Paris et d'électrifier plus. Ça veut dire qu'on a besoin de production d'électricité. On va sans doute consommer demain 50% d'électricité en plus, même si on consomme 30% de moins d'énergie. Donc les centrales nucléaires ou même les toits, comme j'ai entendu, ou les zones non agricoles qui doivent rester prioritaires, hein, ça fait partie aussi des objectifs, ne suffiront pas. Et du coup, ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, c'est que beaucoup de développeurs de l'énergie se sont dit, on va aller le faire sur les terres agricoles, notamment sur les terres à bas potentiel, hein, comme les gens l'ont dit dans le département, et on va essayer de développer un maximum de grands projets pour répondre aux besoins. Évidemment, nous, notre position depuis toujours à la FNSEA, c'est de dire que la production alimentaire doit rester prioritaire. Donc il faut arriver à trouver des systèmes où on garde la production alimentaire et on produit éventuellement de l'énergie dessus. Je rappelle simplement qu'on vise aujourd'hui à peu près 30 à 50 000 hectares en tout, ce qui représente que 0,3% de la surface agricole.
Ça veut dire que vous ne craignez jamais un projet, vous ne craignez pas de voir des projets un peu de, massivement industriels, presque.
Tout à fait, c'est pour ça que la loi APER, il n'y aurait pas eu de loi APER, d'ailleurs dans la première version de la loi APER, il n'y avait pas l'agrivoltaïsme. C'est la profession agricole qui a demandé à ce qu'il y ait des règles spécifiques et notamment la priorité de l'alimentaire. Donc la loi APER est justement là pour corriger. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que la loi APER est très récente, la loi d'accélération des énergies renouvelables, la loi APER, elle est très récente, mais là, sa notice d'instruction est même sortie au mois de février dernier. C'est-à-dire tous les projets dont vous parlez là ou dont vous avez parlé, ce sont des projets qui sont d'avant la loi, qui doit réguler. Donc cette loi, on voit aujourd'hui qu'elle a permis, en tout cas dans tous les dossiers qui n'avaient pas encore été signés, qu'elle a permis de diminuer fortement les dossiers présentés, qu'elle a permis aussi de diminuer la taille des projets dans les projets qui sont en cours d'instruction. Donc la loi est en train de faire effet et beaucoup des projets qui étaient prévus vont pas pouvoir se faire. Par contre, malheureusement, ceux qui ont été signés avant, donc avant il y a 18 mois à peu près, 15-18 mois, après vous avez au moins 3-4 ans le temps que les projets sortent, et bien ceux-là pourront sortir et en fait ils polluent aujourd'hui l'atmosphère, en tout cas l'ambiance autour de l'agriculture. Je voudrais juste rajouter que c'est une question de surface qui est décidée au niveau national et des départements. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment sur des surfaces qui sont raisonnables. Et surtout, c'est des projets qui doivent apporter un plus financier, j'ai entendu, mais aussi un plus d'externalité positive par rapport aux exploitations. Ce que l'on remarque, c'est que ces panneaux, par l'ombre qu'ils mettent, par exemple, lors des canicules, la protection contre le gel, le bien-être animal et tout ça, apportent un plus. Et la loi exige qu'il y ait un plus dans le projet, pas simplement financier, mais un plus par rapport à la production alimentaire.
Oui, ça veut dire qu'il y aura notamment des ombrières qui pourront abriter les animaux. Tout à fait. Il y aura un toit au-dessus.
Ou les vignes dans le sud, ou les abricots. Voilà. Il faut voir cette complémentarité. En fait, on a besoin d'utiliser un peu les surfaces. C'est comme l'agriculture utilise 70% des surfaces. Mais il est surtout impératif de ne pas le faire en supprimant le côté alimentaire des exploitations. C'est le principe de la loi APER.
Et votre syndicat dit aussi que l'agrivoltaïsme, c'est une question de souveraineté alimentaire. Quel lien faites-vous entre les deux ?
Parce que on parle beaucoup de souveraineté énergétique en ce moment. En plus, les problèmes géopolitiques ne font qu'exacerber la chose. La souveraineté alimentaire est aussi en question au niveau mondial à cause du réchauffement climatique, à cause des problèmes géopolitiques aussi. Donc, il faut garder les terres agricoles pour la production alimentaire en priorité. Quand on dit en priorité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas produire autre chose à côté, en même temps, et que par contre, cette autre chose, elle doit apporter un plus à la production alimentaire. Et notamment par rapport au réchauffement climatique, on a besoin d'ombre aujourd'hui. Quand vous avez des productions sous panneaux solaires, souvent la consommation d'eau pour, notamment je pense au maraîchage qui irrigue, va de 30 à 50% de moins de consommation d'eau. Donc vous voyez, par rapport aux enjeux de l'eau, les panneaux peuvent amener. Mais encore une fois, et je le répète, c'est 0,2% ou 0,3% de la surface agricole. On ne va pas trouver des solutions pour toutes les terres agricoles par les panneaux, et ça représente 30 à 50 000 hectares, disons même 50 000 hectares sur 100 départements, vous voyez, ça ne représente pas forcément une très très grosse surface.
Il nous reste 30 secondes, pardon de vous presser, mais ça veut dire donc que vous portez un regard plutôt bienveillant sur la proposition de loi qui va arriver la semaine prochaine en commission à l'Assemblée nationale.
Alors, très rapidement, bienveillant, mais il y a des choses à corriger, et la première partie, c'est parce que c'est une loi aussi qui amène un partage de la valeur potentielle pour le territoire et pour les projets territoriaux. Nous, on avait demandé, comme ce sont des projets agricoles, c'est-à-dire dans la loi d'énergie, c'est bien un projet agricole, que cet argent aille sur des projets, ce qu'on appelle territoriaux agricoles, c'est-à-dire qui bénéficient à l'agriculture, mais aussi au circuit court et tout ça. La deuxième chose, c'est la taille, et au départ, la taille était pour nous trop restreinte, parce qu'il faut quand même arriver à produire de l'électricité qui ne soit pas trop chère. Donc il faut, dirais, on est sur un fil entre le coût de l'électricité et surtout des projets qui soient acceptables, notamment en termes de taille.
Eh bien, on suivra ça aussi, cette proposition de loi sur France Inter. Merci beaucoup, Olivier Daugé. De la FNSEA, l'agrivoltaïsme. On va continuer d'en parler avec son inventeur. Il s'appelle Christian Duprat et on verra dans un instant aussi avec Yael Gauz le volet politique de cette affaire. Merci d'écouter France Inter, 18h37. Speak now, or forever.
je pêche. Simple gossip keeps the young man at ease. I know you're kind, I know the webs that you weave. How do I get past the purse? I'm so hung up on cobwebs. I lasted this long in a paper house.
Elle s'appelle Saya Gray, artiste nippo-canadienne, extrait de son premier album. Vous avez écouté le titre Shell. Et un grand merci à Djoubaka pour la programmation musicale. À la technique ce soir, Élise Christophe, Florian de Rimini et Ronan Mahé. La suite d'une semaine en France.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France consacrée ce soir à l'agrivoltaïsme. On en parle à présent avec l'inventeur de ce concept. Bonsoir Christian Duprat.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'INRAE et donc inventeur du terme agrivoltaïsme. Récupérer dans un champ la majeure partie de la lumière solaire qu'une plante n'utilise pas, c'était ça l'idée de départ ?
Tout à fait. Quand on étudie les plantes, comme nous le faisons à l'INRAE, on peut calculer la quantité de lumière qu'elles utilisent chaque année, la partie de la lumière qu'elles utilisent qui tombe sur la parcelle, et c'est en général de l'ordre de 30%. Ça veut dire que les deux tiers des rayons du soleil ne sont pas utilisés par nos cultures ou nos pâturages.
Et donc il s'agit de les récupérer. Quelques centaines de milliers d'hectares suffiraient, paraît-il, à remplacer nos centrales nucléaires en France ?
Alors, effectivement, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que la production électrique par hectare est extrêmement élevée avec les panneaux photovoltaïques et beaucoup plus élevée en termes d'énergie que ce qu'on obtient, par exemple, avec les agrocarburants, les biocarburants. Vous avez deux manières de faire de l'énergie à partir de l'agriculture. Soit vous passez par la biomasse, par les plantes, vous faites de l'éthanol qu'on met dans le réservoir de nos voitures ou du diester pour nos diesels, soit vous faites du photovoltaïque en conservant les plantes. Et quand on compare les deux, il n'y a pas photo, puisque avec un hectare en France, on peut faire rouler une voiture thermique à peu près 20 000 km, alors qu'avec ce même hectare et des panneaux photovoltaïques, on peut faire rouler une voiture électrique 2 millions de kilomètres. Mmh. C'est un rapport de 1 à 100 en termes d'efficacité. Donc l'idée de l'agrivoltaïsme, c'est d'utiliser au mieux la lumière solaire pour remplacer des cultures qui sont les cultures pour les agrocarburants. C'est 1 million d'hectares aujourd'hui en France. Ça veut dire que pour remplacer ce million d'hectares, il suffit de 20 000 hectares d'agrivoltaïsme.
Ça veut dire en gros donc 900 000 hectares, vous voyez. 1% de la surface agricole utile en France métropolitaine ?
Oui, c'est ça. Et ça représente effectivement autant d'électricité que nos 56 réacteurs nucléaires actuels.
Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de certains riverains et d'agriculteurs qui redoutent de trop gros projets industriels agrovoltaïques dans nos campagnes ?
Mais bien sûr, bien sûr. Personne ne serait enchanté d'être entouré d'un océan de panneaux photovoltaïques. C'est pour cela qu'il faut réguler. L'agrivoltaïsme est une solution formidable par rapport à la transition énergétique, parce que la ressource est quasiment illimitée, on n'a pas besoin de tout notre espace. Mais par contre, pour que ça soit acceptable socialement, il faut des projets de dimension raisonnable, raisonnés avec les habitants du pays, placés à des endroits où ils ne gênent pas, il n'y a aucun besoin de se coller au village, de se mettre près de gens qu'on va embêter. Et donc pour ça, bah, il faut effectivement, à mon avis, réguler, permettre des projets vertueux et surtout pas laisser faire des gros projets très industriels qui vont donner une très mauvaise image de marque de l'agrivoltaïsme.
Réguler, c'est bien l'objet de cette proposition de loi qui va arriver en commission dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Christian, vous restez avec nous, hein, j'ai encore quelques questions à vous poser, mais je vais me tourner vers Yaël Gauze, oui, pour appréhender l'esprit de cette loi. Voilà donc des panneaux solaires dans nos champs qui s'invitent à l'Assemblée nationale. L'agrivoltaïsme commence à peine à se développer, qu'il fait déjà l'objet d'une régulation.
Oui, on en était resté à la grande annonce du pape François, rappelez-vous, l'été dernier. Alors, quel rapport me direz-vous? Eh bien, le Vatican a décidé d'assurer la totalité de son alimentation électrique via un système agrivoltaïque, volonté d'exemplarité de la part du plus petit État au monde vers la neutralité carbone. Tout ça pour vous montrer l'engouement suscité par ces nouvelles fermes. Alors pourquoi déjà une loi en commission la semaine prochaine et qui sera votée, si les délais sont tenus, au plus tôt le 2 avril, signée par une centaine de députés, toutes tendances, hors RN et hors LFI? Eh bien, parce que un peu partout en France, dans les circonscriptions rurales, est apparue cette crainte d'un nouveau Far West.
L'Eldorado.
Ouais, et d'un Far West, tout va trop vite. 4 agriculteurs sur 5 ont déjà été démarchés au moins une fois, pour ne pas dire harcelés au téléphone. Pascal Lecamp est député Modem et il a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps.
Beaucoup d'énergéticiens font miroiter des mirages à des agriculteurs qui malheureusement seront déçus parce que le nombre de projets proposés va bien au-delà des objectifs que s'est fixé l'État en termes d'agrivoltaïsme à horizon 2050. Je pense que les législateurs, quand ils font ce travail, ont conscience de s'assurer que ces projets sont avant tout des projets pour l'agriculture.
Yael, ça veut dire qu'il s'agit de réguler en amont très tôt, avant un trop-plein d'agrivoltaïsme.
Oui, c'est ça, le député Pascal Lecamp qu'on vient d'entendre recense, rien que dans son département de la Vienne, 70 projets en cours d'examen sur 2000 hectares. Or, savez-vous quel est l'objectif de la France dans sa programmation pluriannuelle de l'énergie? 100 gigawatts d'électricité solaire en 2050. 100 gigawatts, dont 20 gigawatts en agrivoltaïsme. Avec seulement 500 hectares de panneaux par département, on y serait déjà à ces 20 gigawatts. Donc imaginez, 2000 hectares, rien que pour le département de la Vienne, c'est totalement disproportionné.
L'agrivoltaïsme, ça pose aussi la question de l'équité entre agriculteurs.
Absolument, éviter ce phénomène délétère du premier arrivé, premier servi. La répartition de la valeur, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les élus locaux, à l'image d'Hervé Morin qui préside la région Normandie.
Au moins que ça ne soit pas capté que par une ou deux exploitations. Si vous avez des très grands projets, on va très vite arriver aux volumes qui sont imposés par le gouvernement, par région, sur l'énergie produite par tel ou tel mode. Et donc, clairement, ce que nous voulons, c'est que si ça doit être un revenu accessoire d'exploitation agricole, il faut que ça puisse profiter au plus grand nombre.
Ouais, Hervé Morin dans Secret d'Info le 4 janvier dernier, parce que vaut la parcelle d'un éleveur de moutons qui héberge des panneaux par rapport à celui qui n'en a pas de panneaux? Dans la loi, il est prévu une taxe qui alimentera un fonds de soutien à des projets agricoles. C'est de la redistribution. L'idée, c'est vraiment de faire primer l'agriculteur sur l'énergéticien.
Et est-ce que plus largement, tout ça ne s'inscrit pas finalement dans un mouvement de défiance, hein? Les Anglais disent backlash à l'égard de l'énergie solaire.
C'est ce dont se plaignent déjà les énergéticiens. L'État fait des économies, ça y est. Réduction des aides à l'installation de panneaux sur les toits et tarifs de rachat d'électricité divisés par 3. Écoutez cette passe d'armes. C'était le 19 février dernier à l'Assemblée entre la députée écologiste Julie Laernous et le ministre de l'Industrie Marc Ferracci.
Tous nos voisins font le choix d'une électricité naturelle, abondante, à très bon marché. Tous, sauf un. La France.
Et vous dire, Madame la députée, que nous continuons à soutenir le photovoltaïque et en particulier avec l'introduction à la fin de l'année d'un taux de TVA réduit sur les achats de panneaux photovoltaïques. Donc, soyez équilibrés dans votre approche parce que nous le sommes. Je vous remercie.
L'énergie solaire et ses zones d'ombre, Eric, les panneaux sont tous Made in China, l'Europe n'a pas su se protéger à temps. Photowatt, un des derniers fabricants français, filiale d'EDF, va fermer. Trop de pertes et aucun repreneur.
Des panneaux chinois bientôt donc dans les campagnes françaises. Christian Duprat, je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRAE, inventeur du terme agrivoltaïsme. Est-ce que la proposition de loi qui arrive à l'Assemblée nationale est conforme à l'esprit initial de votre concept ?
Oui, alors le concept, c'était effectivement de partager la valeur, parce qu'effectivement, si elle est accaparée par quelques 1% des agriculteurs français, on va déclencher des jalousies, une inégalité très importante. Il faut savoir qu'il n'y a que 15% du territoire français qui est à moins de 10 km d'un poste source du réseau de RTE, de raccordement. Mmh. Ça veut dire qu'on ne peut faire des grandes centrales que sur 15% du territoire français. Donc 85% du territoire serait éliminé. Nous disons que non, on peut faire tout à fait autre chose. On peut faire aussi des petites centrales agrivoltaïques. Des centrales qui font un demi-hectare, un hectare ou deux hectares. Et dont l'électricité est utilisée en boucle locale, en autoconsommation, pour recharger les tracteurs électriques, pour faire des bornes de recharge des voitures électriques des voisins, etc. On peut donc parfaitement faire de l'agrivoltaïsme à différentes échelles. Et cette échelle-là que je propose, elle est beaucoup plus acceptable socialement, puisqu'elle peut être autofinancée, cofinancée par les habitants et les agriculteurs. Donc, il y a plein de modèles d'agrivoltaïsme, en fait.
Est-ce que vous avez senti un bras de fer au gouvernement entre le ministère de l'Agriculture qui veut protéger ses terres agricoles des bulles spéculatives et puis le ministère de l'Énergie qui, lui, veut développer les énergies alternatives ? Est-ce qu'il y a une rivalité au sein du gouvernement sur votre dossier ?
Oui, ça a été compliqué, notamment au moment de la loi Appert et de ses décrets d'application. Elisabeth Borne disait qu'elle avait fait 3 réunions interministérielles pour trancher ce sujet-là, ce qui en faisait un des sujets les plus compliqués de sa mandature, vous voyez. Donc, pourtant, c'est pas grand-chose. Non, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il manque dans la loi qui est en discussion, la loi Le Camp, la proposition de loi Le Camp, des modalités pour favoriser les petits projets, pour les rendre plus faciles. Parce qu'aujourd'hui, les petits projets supportent les mêmes coûts d'instruction, les mêmes coûts d'études préalables que les grands projets. Et ça les rend non attractifs pour les électriciens.
Eh bien, merci beaucoup de ces précisions, Christian Duprat. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRAE, qui a permis donc à l'agrivoltaïsme d'être un concept français. Ça a failli être les Japonais, hein, en deux mots.
Ah ben oui, ils avaient commencé en même temps que nous, voire même une ou deux années avant, mais ils n'ont jamais rien publié. On a découvert leurs travaux 10 ans après.
Merci beaucoup Christian Duprat. À suivre sur France Inter, la suite d'une semaine en France. Ce sera l'actualité en région avec le réseau ICI, après les feux Chatterton.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand? Pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser, mon amour pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse aux sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile, avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville, et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies,
Amour pour toi, sur quel pied danser, l'écran total selon Feu Chatterton. Vous écoutez Une semaine en France, réalisé par Juliette Gou, Frédéric Barrère à la rédaction en chef, 18h53.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région, c'est le multiplex d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau Ici. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'Ici Orléans, Ici Garlozère, Ici La Rochelle, Cécile Dacosta, Tony Cellier, Éric Le Bihan. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
À Orléans.
Et bonsoir.
Cécile Dacosta, solidarité et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles. Vous nous présentez ce soir des rubans contre l'oubli.
Ça se passe au cœur de la cathédrale d'Orléans, sur une petite table, un panier avec des rubans de toutes les couleurs est mis à disposition des visiteurs et des fidèles. Depuis hier, chacun est invité à y inscrire au stylo un prénom ou bien un lieu pour rendre hommage aux victimes d'abus sexuels dans l'église. Ensuite, ces rubans peuvent être accrochés aux grilles à l'intérieur de la cathédrale, mais aussi à l'extérieur, sous le porche, avec un objectif, rendre visible l'invisible. C'est ce que nous a expliqué l'une des responsables de l'opération pour le diocèse. Elle dit aussi que l'initiative vise à faire de la prévention pour dire plus jamais ça, pour que ces abus n'aient plus lieu aujourd'hui. Cette démarche, elle est née il y a 10 ans en Australie et c'est la deuxième fois qu'elle est relayée localement chez nous à Orléans. L'initiative s'inscrit plus largement dans le cadre de la journée mémorielle pour les personnes victimes d'abus dans l'église. Elle est organisée partout en France le 28 mars, la semaine prochaine. L'an dernier, autour de 350 rubans étaient accrochés pendant une semaine dans et autour de la cathédrale d'Orléans.
Après Orléans, Mende, en Lozère. Tony Cellier, il y a 50 ans à Mende, ouvrait la médiathèque. Eh bien Tony, vous avez rencontré Colette. Elle a 92 ans, Colette, la plus âgée des adhérentes, et elle lit réellement un livre par jour.
Eh bien, elle lit, et nous, si vous permettez, on va compter. Hein. Est-ce que vous savez la différence entre Colette et nous, vous et moi, quand on prend un caddie, hein, c'est pour faire les courses. Colette, elle, c'est pour emprunter des livres à cette médiathèque de Mende toutes les semaines, avec son petit chariot. En ce moment, sa passion, c'est les romans policiers. Un livre par jour. La journée type de Colette, c'est debout à 5h du matin, et si elle se lève, c'est justement pour lire. Alors, on a fait le calcul avec elle, entre 5 et 7 livres par semaine depuis 50 ans, ça nous fait, allez, entre 30 et 18 000 livres engloutis, et on a compté sur 50 ans parce que cette année, effectivement, la médiathèque de Mende fête justement son demi-siècle d'existence, et que Colette est l'une des plus anciennes adhérentes. Alors, ça ne vous étonnera pas, c'était son métier, libraire. Colette aime la lecture, mais plus que ça, Colette aime, elle aime le livre, l'objet, l'odeur des livres, tourner les pages. Ses petits-enfants lui ont bien offert une tablette numérique, mais ça lui sert pour consulter la météo, rien de plus. Un livre, c'est pas sur un écran pour Colette, pas question. Elle respecte trop l'objet, celui qui, dit-elle, vous transporte, vous plonge dans une ambiance, elle s'évade et ça l'apaise. Alors la plupart du temps, ces livres, elle les emprunte donc à cette médiathèque de Mende. D'ailleurs, un Mendois sur 5 possède une carte de bibliothèque, c'est plus que la moyenne nationale. Il y a les rats des villes, les rats des champs, mais en Lozère, vous l'aurez compris, on est plutôt des rats de bibliothèque.
Avec 18 000 livres lus par Colette, 92 ans. La Rochelle à présent, avec vous Éric Le Bihan. Voilà que les marchands de glace à La Rochelle sont en train de choisir les futurs parfums de l'été.
Et oui, car il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour concevoir ces nouveaux parfums, originaux mais pas trop, attendus par les clients, tout en les surprenant à un savant cocktail. Près de Royan, par exemple, Maxime Lopez planche depuis quelques temps sur un sorbet miel, pignon, menthe, citron pour cet été. Il va proposer aussi une glace poire Belle Hélène avec des cubes de poire confite, sauce et copeaux de chocolat. Celui qui descend d'une famille de glaciers installés en Charente-Maritime depuis plus de 100 ans va également sortir un troisième parfum. Attention, la seule chose qu'on a bien voulu nous dire, c'est qu'il y aura du fromage de chèvre dedans.
Une glace au lait de chèvre, et pourquoi pas. Éric, certains glaciers préfèrent garder leur secret et ne rien lâcher.
Oui, et d'autres comme Tonton Maboule, glacier depuis 20 ans à La Rochelle, joue carte sur table. Il mise aussi sur le fromage de chèvre, avec une crème glacée chèvre, miel, fruits rouges. Il travaille également sur des glaces qui rappellent l'apéro, tiens, un sorbet au Pinot des Charentes pour le côté local, et un plus exotique au Tiponche. Tonton Maboule avoue ne pas trop aimer les tendances. Il préfère les thèmes de travail, cette saison la pâtisserie, avec de la glace au cannelé, Paris-Brest, ou au parfum crème beurre au sucre. Et puis, autre glacier, Rochelet, et autre idée, autre envie, le thème pour le glacier Roméo, la bûche de Noël, avec une crème glacée du nom de Canaille, avec de la vanille et un crumble de cacahuètes du Sud-Ouest. Et puis Eric, si vous souhaitez rester sur le thème de Noël, actuellement, chez Tonton Baboule, sur le Vieux-Port Rochelet, vous pouvez déguster un sorbet vin chaud.
Sorbet vin chaud, je sens déjà la cannelle. Merci à tous les trois. L'actualité d'ici d'ailleurs avec le réseau Ici, à suivre le journal de 19h. Et le téléphone sonne, on parlera de l'eau.